Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis très heureux, très ému et très honoré d'accueillir en votre nom à tous Zrinka Stahul-Jak, qui va nous faire donc l'amitié et l'honneur de prononcer à partir de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, 4 conférences sur les fixeurs au Moyen-Âge. Elle vient de Los Angeles. Elle enseigne la littérature française et comparée à Los Angeles, même si elle est en France pour quelque temps. C'est une spécialiste, si j'avais à la présenter de manière académique, une spécialiste reconnue, internationalement reconnue de la littérature courtoise, et en particulier des manuscrits bourguignons, et en particulier en cette fin du Moyen-Âge, où la Bourgogne est cette sorte d'état fixeur qui sera sans doute le point d'arrivée de notre périple, le moment, en somme, où il s'agit non pas de faire l'histoire littéraire de la France, mais de considérer comment cette nation française est en elle-même, au fond, un produit de sa littérature. Non pas parce que ce serait une patrie littéraire, mais parce que la littérature est non seulement un monde, non seulement son monde, mais au Moyen-Âge crée effectivement les conditions d'un rapport avec la mondialité. Tout cela, Zrinka l'étudie à la fois de manière, je dirais, très savante, très experte, notamment dans les rapports entre le manuscrit et son enluminure dans les bibliothèques bourguignonnes, mais aussi, on va y revenir, dans la structure même, l'organisation même de ces structures bourguignonnes. Mais, et c'est évidemment la force, la puissance, l'originalité de sa pensée, cette expertise, cette enquête minutieuse, tantôt iconographique, tantôt philologique, elle s'articule toujours étroitement avec une recherche réflexive sur l'épistémologie elle-même. Vous lirez, si ça vous intéresse, par exemple, dans le prochain numéro, je crois, des Cahiers de civilisation médiévale, une réflexion très globale, très ample sur la question de ce qui connecte l'histoire, ce que peut la littérature pour se frayer un chemin entre ces notions complexes de monde, de civilisation, voire de connexion, justement. C'est de tout cela dont il sera question. Si je voulais l'embarrasser, je dirais que Zrinka Stahul-Jak est au fond, mais comme on peut l'être aujourd'hui, une historienne de la nation française. Et que pour comprendre la nation, pour en saisir, au fond, les fondements imaginaires, il faut prendre des chemins de traverse, et le plus surprenant et le plus enthousiasmant est celui qu'elle a consacré à cette double histoire à la fois de l'archéologie de la discipline et de l'archéologie de la nation, des rapports entre le sexe, la race, l'hérédité, dans un livre qui vient de paraître aux éditions des presses universitaires de Rennes, dans sa traduction française, « L'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et histoire de France ». Voilà qui est de prime abord surprenant, ce n'est pas de ça dont elle va parler, les rapports entre l'histoire, au fond, de la discipline et l'histoire du savoir médical, qui était évidemment, je dirais, la discipline reine au XIXe siècle. Mais voilà, c'est de sorte d'embardée théorique et de décloisonnement disciplinaire que nous convie Zrinka Stahul-Jak. Quant à savoir ce dont elle va nous parler, ah oui, j'ai une médaille pour toi, comme au Moyen-Âge, quoi, hein, finalement, mais à la fin du voyage, on a un peu de la bimbeloterie. Mais oui, à la fin, parce que sinon elle ne reviendra pas, peut-être, on ne sait pas. Donc, elle est là, et on l'aura peut-être à la fin. Alors, on
avec
me dira.
Tout le cérémonial.
Ou pas. Ah, oui, mais bien sûr, on sait recevoir. Les fixeurs au Moyen-Âge, ça n'existe pas, me direz-vous. Ben non, ça n'existe pas tant qu'on ne les a pas fait exister. Les intellectuels au Moyen-Âge n'existaient pas non plus avant que Jacques Le Goff n'en écrive l'histoire. Donc, dans 4 semaines, ils existeront vraiment. Et donc, Zrinka, c'est à toi de jouer maintenant pour nous les faire exister.
J'espère faire cela. Merci Patrick pour cette belle introduction et merci pour cette invitation magnifique de continuer notre dialogue d'affinité et de convergence qu'on a entamé il y a quelques années. Et merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. J'aimerais ouvrir ce séminaire en partageant avec vous l'expérience qui m'a amené à cette réflexion sur les fixeurs. Mon intérêt est né d'une expérience très personnelle. J'étais interprète de guerre sur les lignes de front pendant les guerres dans les années 90 du siècle dernier en ex-Yougoslavie. Et il est évident que cette expérience m'a formée d'une manière très personnelle dans ma vie, dans mon affect, mais évidemment elle m'a formée aussi dans mon parcours intellectuel. Vous allez en entendre les échos, j'en suis sûre, mais je vous rassure quand même que je ne vais pas parler de moi. Et néanmoins, il m'a semblé important de faire cette sorte de coming out intellectuel auprès de vous, parce que je crois que souvent, dans nos travaux intellectuels, on parle de soi-même. C'est un travail souvent autobiographique, mais aussi souvent qu'on ne dévoile pas. Alors, qui sont ces fixeurs? C'est évidemment la question qu'on me pose toujours. C'est la première question. On me dit, mais vous travaillez sur quoi? Je dis sur les fixeurs, mais qui sont-ils? Donc, il est judicieux de vous répondre d'abord brièvement dans un premier temps. Ce sont les hommes à tout faire quand vous êtes dépourvus de vos moyens habituels et que vous embauchez et que vous payez pour vous arranger la vie, voire beaucoup plus sérieusement, pour vous arranger la survie. Un ancien article dans Le Monde datant de 2005, pendant la guerre en Irak, les présentait justement comme les arrangeurs. Et je prends ici un autre exemple plus retentissant et beaucoup plus récent, c'est l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, que la presse américaine a surnommé « Trump's fixer », le fixeur de Trump, le fixeur du président. Le français a le plus souvent fait référence au fixeur avec le terme passeur. J'y reviendrai dans un instant. Mais avant de nous engager dans une enquête plus approfondie, voilà comment je pose la problématique globalement. Si j'embauche un fixeur, si je le paye, en quoi suis-je lié à lui? En quoi est-il lié à moi, vu que je le paye pour qu'il ait la sauvegarde de ma vie? Il est clair que le rapport au fixeur soulève des problèmes et des questions de biologie, la vie, la survie, d'éthique, quel est le rapport entre deux personnes, quelles règles de comportement, d'économie, il y a un contrat, je l'ai embauché, le gain financier, affect, quelles émotions, quelle relationnalité, mais aussi des questions de politique et de géopolitique. J'espère poursuivre avec vous toutes ces questions au cours des 4 séances. Généralement, je dirais que la question pour nous tous, même au quotidien, et voire vraiment au quotidien, c'est peut-être le cœur du problème, est celle de notre rapport aux intermédiaires. Quel est ce rapport de pouvoir particulier dans lequel on s'engage, et surtout quand on dépend d'eux? Comment ce rapport avec l'intermédiaire interroge notre identité, notre volonté, notre subjectivité et tout simplement notre rapport au monde? Alors, pour commencer, j'aimerais cerner cette problématique et définir les enjeux que nous poursuivrons. Une autre question. Pourquoi pas les interprètes? Pourquoi je ne parle pas des interprètes, vu mon expérience personnelle? Pourquoi je parle des fixeurs? Quand on parle des métiers d'interprète, quand on dit être interprète, il est habituel de penser à l'interprétation littéraire, musicale, théâtrale. Récemment, on a pu beaucoup parler de l'interprétation de la fin de Carmen de Bizet, par exemple. En revanche, on se souvient rarement du métier dont le nom est tout simplement un dérivé du mot interprétation, et c'est l'interprétariat, ce qu'on appelle souvent l'interprétation simultanée ou consécutive, et le plus souvent, on y pense dans le cadre des conférences. Alors, son nom indiquerait que l'interprétation est sa première caractéristique, et pourtant, celle-ci ne se présente pas immédiatement à l'esprit. Est-ce parce que, malgré son nom, l'interprétariat n'est pas considéré comme une interprétation, une transformation, mais plutôt une transposition, de surcroît idéalisée comme sans médiation d'une langue à l'autre. Ce serait donc la volonté de non-médiation. J'essaierai d'éclaircir ça un peu plus en faisant appel à l'activité sœur de l'interprétariat, c'est la traduction, qu'on n'associe pas non plus à l'interprétation. La question qu'on pose et dont on débat depuis des siècles est plutôt celle de la fidélité de la traduction à l'original ou de la fidélité du traducteur à la langue d'accueil. C'est-à-dire que la question de fidélité empêche, ou en tout cas devrait limiter, la volonté ou l'intention de l'interprétation. Le traducteur, tout comme l'interprète, ne serait pas maître de sa libre interprétation. Il serait chargé de transmettre un sens sans y intervenir, en se rendant invisible. Le but idéal d'une traduction est qu'elle n'en soit pas une. Rendre donc la traduction invisible, cela veut dire effacer toute médiation entre d'une part l'original, le créateur, l'auteur, en tout cas l'émetteur, et d'autre part la copie, la traduction, donc le récepteur, l'auditeur, le lecteur, le spectateur, etc. Mais ce que révèlent les cas de l'interprétariat dans les contextes juridiques, migration, je pense à la migration tout particulièrement, ou dans le contexte médical, commercial, ce qu'on appelle aussi « community interpreting », ça c'est, je pense, les acteurs de banlieue en France, et surtout dans le contexte militaire et journalistique, c'est l'inévitable insertion de l'interprète dans la transmission du contenu traduit. Il est clair que la fidélité à l'oral ne se situe pas au même endroit que la fidélité au texte. Elle se situe à l'endroit de l'intervention, de l'action, et je parlerai ici pour la première fois de ce terme anglais difficilement traduisible de « agency », de la capacité d'agir, d'agentivité, ou comme le transpose Bruno Latour, la forme d'existence. C'est donc l'endroit de l'intervention, d'un autre terme, celui de fixeur. Ce terme, qui couvre un champ beaucoup plus large que la traduction fidèle, invisible, transparente entre langues, m'a aussi paru parfaitement adapté au contexte médiéval, comme je vais essayer de vous convaincre. Et comme nous le verrons ensemble, aussi, j'espère, il va se révéler être un véritable dispositif. Dispositif qui donc interrogera notre rapport au monde. Ce rapport est-il immédiat ou par médiation? D'ailleurs, je vous signale ici les interrogations sur l'assistant Google, que Le Monde a appelé dans un article très récent « terrifiant ». Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas distinguer la voix de cet assistant du timbre humain. Donc, l'invention de Google, on dit long sur son incapacité à prendre la mesure des impacts sociétaux de ses inventions, comme si les considérations éthiques devaient être sacrifiées sur l'autel de la performance technologique. Ça, c'était la citation du Monde. Il s'agit donc vraiment des considérations éthiques, et je pense que la question qu'on va poser ici, que j'aimerais poser ici avec vous, c'est vraiment, y a-t-il même une possibilité d'éthique? Pour revenir à la question initiale, qui sont les fixeurs, ces arrangeurs, ou plus exactement, que font-ils? C'est plutôt ça la question. Depuis l'engagement occidental en Afghanistan et en Irak, le terme de fixeur est devenu fréquent pour désigner quasi exclusivement des hommes qui rendent des services multiples aux journalistes et aux armées étrangères. Le fixeur, fixer, est en effet un très vieux terme journalistique de la langue anglaise qui désigne un homme à tout faire dans des situations de conflit. C'est celui qui fait interprète, guide, chauffeur, fournisseur, médiateur, etc. Bref, tout ce qu'il faut à un journaliste, voire à un militaire, pour faire son travail en terrain hostile et pour survivre. C'est un intermédiaire, un facilitateur, un auxiliaire, est une autre traduction qu'on a utilisée en français, qui possède de multiples savoirs et techniques. Et chacun de ces synonymes, en fait, intermédiaire, facilitateur, auxiliaire, arrangeur, interroge en fait la capacité d'action et la forme d'existence qu'a ce personnage. Est-ce une prothèse? Est-ce un libérateur? Est-ce un entre les deux? On verra. Mais pour le moment, je veux insister sur deux points, langue et conflit. Le principal domaine d'action du fixeur, se situe dans des situations de conflit qui exigent une intervention bilingue entre deux langues mutuellement inintelligibles. D'une part, le fixeur facilite le passage, la transmission entre deux langues mutuellement inintelligibles, et c'est cette différence linguistique qui le distingue des autres intermédiaires. D'autre part, il est important de souligner que par conflit, je veux mettre en avant l'idée d'une situation hostile. Il ne s'agit pas forcément de guerre, ni d'un conflit armé, où le fixeur interviendrait, mais hostile, tout simplement parce que celui qui a recours au service d'un fixeur est handicapé, il est dans une situation précaire à cause de son incapacité de communiquer dans la langue du territoire où il se trouve. Finalement, j'ajoute ici un troisième paramètre important pour comprendre les rapports de pouvoir et important tout simplement pour comprendre ce qu'ils font. Fixeur est une position plutôt qu'une profession qu'on occupe dans un passage ou dans une médiation dans l'entre-deux. Les zones de contact et de passage ne sont pas encadrées, même si elles peuvent être circonscrites, bien sûr, dans l'espace ou dans le temps. Elles sont sujettes à l'improvisation. Être fixeur, bien sûr, c'est un job, c'est un gagne-pain, mais ce n'est pas pour autant une profession pour laquelle on aurait reçu une formation. La plupart du temps, ce qu'il faut, c'est une connaissance de base de deux langues, et vraiment de base, j'insiste, hein, c'est très rudimentaire parfois, une grande adresse, un savoir-faire dans les situations toujours inédites, et ça sont donc les éléments que je considère être requis pour être un fixeur, ou plutôt pour faire fixeur. Alors, la question qu'on me pose tout de suite après, c'est est-ce que les fixeurs existaient au Moyen-Âge ? Et est-ce que le fixeur est bien intermédiéval ? Je vous réponds. Surgit de la nuit des temps un récit dont on part toujours de point de vue de l'amour et l'Occident. Je reprends le titre du livre de Denis de Rougemont, publié en 1939. Et là, c'est un premier exemple d'un fragment de console de l'hôtel de ville de Bruges, datant du XIVe siècle, par le sculpteur Jean de Valenciennes, qui représente Tristan Iseut et la suivante d'Iseut, Brangien. Il est exposé au Groningen Museum à Bruges. On apprend, au détour des phrases chez les deux grands poètes expression française au XIIe siècle, Béroul et Thomas, dont les textes nous sont parvenus à l'état fragmentaire, que Brangien n'a pas bien gardé le filtre d'amour, hein, ce qu'on appelle le boivre d'amour, l'ivine herbet, la boisson d'amour, le vin herbé, préparé par la mère d'Iseut pour Iseut et le roi Marc. Et parce qu'elle ne l'a pas bien gardé, Tristan qui accompagne Iseut jusqu'au roi Marc, Tristan et Iseut l'ont bu par grande soif lors de leur traversée de mer depuis l'Irlande. Sans la gentilité de Brangien, il n'y aurait pas eu l'amour fou, courage de folie, s'il n'y avait pas eu la poison, c'est-à-dire la potion, mais aussi le poison. Alors, il y a plusieurs choses remarquables dans cette sculpture de Jean de Valenciennes. Les personnages apparaissent en mouvement, comme en fuite, ce qui est bien sûr vrai devant la colère du roi Marc. Et depuis cet autre angle, on voit que Brangien, le personnage donc à votre droite, regarde devant elle, alors que le couple derrière elle regarde vers elle. C'est celle sur qui il s'appuie. D'ailleurs, ils s'appuieront d'une manière très concrète, puisque c'est elle qui prendra la nuit de noces, elle prendra la place d'Iseut qui n'est plus vierge. Le deuxième élément d'exception me paraît être la taille des figures. Brangien est le personnage le plus grand et par ceci mis à part. Voici donc un exemple de fixeur, d'arrangeur, tellement évident que le sculpteur ne peut s'empêcher de figurer le couple en triangle. J'évoquerai rapidement un autre fixeur dont le professeur Boucheron a parlé dans son cours du 23 janvier 2018. C'est Galéo, ce prince qui donne le sous-titre au Décaméron de Boccace. Galéo est un personnage de fiction, dans une fiction politique, le roman arthurien qui apprend à ses lecteurs, et je cite le professeur Boucheron, il leur apprend ce dont ils sont capables en matière de fidélité, de loyauté, de transgression, de trahison. Galéo est sans nul doute une fiction politique, mais évoquer la fidélité, la loyauté, la trahison va au cœur de ce que font les fixeurs. Et Galéo est un fixeur qui réunit dans un premier baiser, c'est ce qu'on voit ici, Lancelot et Guenièvre. Sans le vouloir peut-être, il provoquera la fin du royaume arthurien. C'est encore Galeo, je vous rappelle le cours du professeur Boucheron, qui se fait fixeur pour Francesca da Rimini et Paolo Malatesta dans la comédie de Dante. Galeo fut le livre et le trouvère. Dans cette miniature du XIIIe siècle, Galeo n'est pas représenté en taille plus importante que Brangien, mais il est certainement au centre. Et encore une fois, on retrouve le couple en triangle. Alors on serait tenté de penser à l'amour comme un rapport direct entre deux personnes, mais au Moyen Âge, il n'y a pas d'amour sans intermédiaire et ça devient politique. Alors, est-ce une fiction politique de fixeur, une fiction politique parce qu'il y a un fixeur, une fiction politique qui ne peut se dire que grâce à un fixeur ? Je pose ces questions, peut-être on en reparlera. Bon, j'ai voulu partager ces deux exemples avec vous pour vous dire que les arrangeurs sont partout dans les textes et contextes médiévaux. Mais je vais cerner mon propos quand même. Je ne parlerai pas d'amour, et je ne parlerai pas de toute la variété de situations de médiation et d'échange où on serait tenté de voir les fixeurs. Par exemple, on pourrait dire qu'un jongleur peut se faire fixeur, un prêtre, l'écuyer, le scribe, le maître d'atelier, le courtier, bien sûr l'entremetteuse. Tout ça, ce sont les médiations qui se passent a priori dans une même langue. Alors, l'analyse de ces points d'échange, de ces échangeurs, comme dirait Bruno Latour, serait une modification terminologique et analogique, mais elle ne s'intéresserait pas au cœur du problème de la nécessité de communication par-delà de l'intelligible. Que se passe-t-il quand on est dans une situation de vie et de mort et que l'on ne peut pas communiquer par ses propres moyens ? C'est-à-dire, que fait ressortir cette situation de vie et de mort ? Soit dit en passant, l'exemple de Brangien, et je tiens à dire ça, elle souligne quelque chose de très important, que les femmes aussi sont des fixeurs. Et on pourrait s'attendre, puisque je suis une femme, que je m'occupe des femmes. Mais l'archive historique est remplie d'hommes, comme on sait très bien, et c'est de ces hommes que j'appelle des hommes à tout faire. Alors on pourrait s'y prendre de deux façons. Considérer le domaine des rapports amoureux, qu'il soit réservé à la médiation des femmes et restreindre ce domaine au genre, ou alors considérer l'amour comme une archive historique dans le grand réseau de rapports humains au Moyen Âge. Ça sera peut-être pour une autre fois. Quelle dénomination des fixeurs au Moyen Âge ? On rencontre surtout drukemani, trukemani, turcimani, trussement, truchement. Tout ça, c'est les variations du terme qu'on utilise aujourd'hui le plus souvent, le dragomane. On trouve par ailleurs interpres en latin et latinier parfois en ancien français. Je vous donne la définition du marchand banquier de Florence, Francesco Balducci Pegoletti, qu'il a donnée entre 1335 et 1343, donc au XIVe siècle, dans son ouvrage Pratica della Mercatura. Dragomane dans plusieurs langages, calamanchi en tartare, ce sont les gens qui modèrent d'une langue à une autre et donnent à comprendre les langues qui ne s'entendent pas, donc qui ne sont pas mutuellement intelligibles. Les pèlerins en Terre Sainte aussi parlent d'interprètes ou le dragomane. Alors, peut-être vous allez me dire, là, je me contredis. Je viens de dire que les interprètes ne sont pas les fixeurs et les fixeurs ne sont pas les interprètes. Je continue, puisque l'interprétariat n'est pas l'unique fonction des dragomanes. En 1384, le Florentin Giorgio Gucci parle de notre interprète qui nous guida. En 1420, un pèlerin français anonyme raconte la rencontre avec les trussements pour conduire les pèlerins. En 1485, le bourgmestre Georges Langueyrand explique que certains pèlerins, je cite, « déjà avaient fait marcher au truchement pour les y mener à Sainte-Catherine ». En 1483, Félix Fabry fournit une définition encore plus élaborée. Il dit « les dragomanes, c'est-à-dire les protecteurs, les guides, les gardiens des pèlerins chrétiens ». La définition la plus ample de la multifonctionnalité des dragomanes, au-delà d'un service linguistique, est donnée par le chevalier allemand Arnold van Harff, voyageant au Moyen-Orient et en Égypte entre 1496 et 1499. Il embauche son dragoman à Venise, c'est un chrétien converti à l'islam, il s'appelle Maître Vincent. Tout le long de son récit, il va l'appeler « mon dragoman ». Voici ce qu'il dit. Il connaissait de nombreuses langues, le latin, le lombard, l'espagnol, le vende, le grec, le turc, un excellent arabe. Je devais le payer 4 ducats par mois, en plus de la nourriture et de la boisson, et 100 ducats en cadeau. Je vous signale que ce 100 ducats en cadeau, on va en parler dans la troisième séance sur le don, la courtoisie et le pouvoir. En contrepartie, il devait me conduire de Venise au Caire, en continuant jusqu'à Sainte-Catherine, et à travers toutes les terres païennes jusqu'à Jérusalem. Item, dès que j'ai conclu mon contrat avec lui, il est parti acheter toutes les fournitures dont nous aurions besoin pour le voyage en Galée. Et dans un effet spectaculaire, en plus de tout ce qu'il fait en tant que fixeur, Maître Vincent fait passer au Caire le chevalier pour un marchand, et pour couronner l'exploit, il le fait passer même plusieurs fois pour un sarrasin, ce que lui permet de visiter les endroits interdits aux chrétiens. Ce qu'on voit bien, alors, c'est la multifonctionnalité de ces personnages historiques et qu'on ne peut pas cantonner, voire limiter, à l'unique fonction linguistique. Je crois donc que le thème fixeur, certes contemporain, répond à cette prise de position multiple à l'intérieur desquelles s'opèrent des fluctuations. D'ailleurs, jusqu'à récemment, on traduisait l'anglais « fixer » par le français « passeur ». Je crois que nous devons nous interroger profondément à savoir si les fixeurs sont des passeurs. Passeur est une position qui, dans le contexte contemporain, politique, en France, me paraît être d'un ordre tout à fait différent, s'agissant principalement de celui qui fait passer les frontières aux migrants clandestins. Certes, les passeurs peuvent aussi être des fixeurs, mais il s'agit ici d'un cadre particulier et d'une activité à des fins lucratives et relevant de l'exploitation. Bien sûr, j'exclus de cette définition les passeurs comme Cédric Kerou, dont l'activité était motivée par un autre but politique et humanitaire. Et je vous signale, en passant, un autre livre de Raphaël Kraft, qui s'intitule tout simplement « Passeur », qui est un témoignage, pareil, de désobéissance civile. Alors, le rapport de force entre passeurs et fixeurs est grosso modo inversé. Les fixeurs d'aujourd'hui sont vraisemblablement à la merci de leurs clients, comme nous le verrons plus en détail au cours de ces quatre leçons. Là, pour le moment, il me suffira d'évoquer toutes les polémiques autour du rapatriement des fixeurs des armées françaises, britanniques et américaines dans l'après-guerre d'Afghanistan et d'Irak. C'est-à-dire qu'on leur a promis la relocalisation pour les sauver, en fait, de la vengeance après le retrait des armées, et après, on les a, en gros, laissés abandonner. Si les fixeurs sont donc à la merci de leurs employés occidentaux, les passeurs occidentaux ont les migrants à leur merci. Et donc, nous reviendrons sur ce rapport de force, surtout dans la deuxième et troisième conférence. Mais la raison principale qui me pousse à ne pas accepter le mot de passeur à la place de fixeur, et précisément cette question de langue et surtout de communication qui me paraît occultée dans « passeur ». Celui qui fait passer, et qui fait passer même clandestinement, et c'est justement ce rappel à l'invisible dont je parlais au début, donc celui qui fait passer même clandestinement, ça s'oppose à la rugosité, à l'aspérité de celui qui arrange, qui répare, qui raccorde, tant bien que mal. Et il me semble que cette aspérité, qui néanmoins fait que quelque chose passe de l'un à l'autre, nous fait sentir plus clairement en quoi le fixeur est un dispositif. C'est donc un anachronisme assumé que j'entends maintenir le long de ces quatre leçons. Et je dois remarquer d'ailleurs que « passeur » n'est pas un terme plus médiéval que « fixeur ». Souvent on me dit « mais pourquoi pas « passeur » ?» Mais ce n'est pas plus médiéval. Le passage entre le passé et le contemporain me semble nécessaire, autant que fertile, pour ressaisir et renouveler l'expérience, la forme de vie dont parle le professeur Boucheron dans son séminaire en cours, la forme d'existence que j'évoquais de Bruno Latour. Il faut jouer sur l'anachronisme pour faire apparaître un dispositif qu'on a la volonté de cacher. Il faut jouer sur l'anachronisme parce qu'on ne veut pas admettre l'intermédiaire dans notre rapport au monde. Ce qu'on a pu voir avec l'interprétarien. Cela n'est pas uniquement une question terminologique, analytique et méthodologique, mais aussi une question d'imaginaire du monde à venir. quel est notre choix du récit du passé qui détermine comment on raconte, comment on narrativise le présent, le contemporain. Si on choisit le fixeur, quelle est l'histoire qu'on raconte? Si on choisit le passeur, quelle est l'histoire qu'on raconte? Comment le choix de l'histoire du Moyen-Âge réinvente le présent et l'avenir parce qu'il nous le fait voir autrement? Les choix qu'on fait quand on fait de l'histoire, est-ce pour répéter l'original ou est-ce pour innover une traduction? L'anachronisme n'est donc pas là pour falsifier, mais pour ouvrir, pour faire le lieu de passage. Il est là pour élaborer une histoire connectée, non uniquement à travers l'espace, cette histoire du monde, l'histoire globale, mais aussi une histoire connectée à travers le temps. Ce qui m'oblige maintenant, à présent, de m'atteler aux clivages qui ont soutenu et fait perdurer ce désir de non-médiation, ce refus de l'intermédiaire dont je parle depuis le début. La figure du passeur a été très étudiée en histoire, alors que la traduction des textes, surtout, mais pas le traducteur, l'a été en histoire littéraire. Je parle surtout pour le Moyen-Âge et les premiers siècles, le XVIe et XVIIe. Le clivage histoire-littérature se pose, je crois, entre personne et texte, et peut-être même entre corps et texte. Par corps, j'entends ici la dimension de l'expérience, du vécu, de la vie. Il s'agit de ressaisir non pas l'événement ou l'avènement, mais l'expérience. Et pour cela, j'aimerais évoquer ces clivages qui nous en empêchent. En histoire, ce sont les travaux d'historiens sur la connectivité et la transversalité pour la période qu'on nomme en anglais « early modern » et qu'on traduit par la première modernité, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe et XVIIIe. Et ce sont ces historiens qui ont fait sortir d'ombre ces personnages qui passent et font passer dans cette période d'essor européen, de voyage, de découverte, mais aussi de colonisation. Ce sont donc les soldats, les espions, les pirates, les émissaires, les marchands, les missionnaires, les pèlerins, les convertis. La figure de Malinche, qui aurait permis la conquête du Mexique à Hernán Cortés, en est emblématique. Une autre figure emblématique, c'est Léon l'Africain. Je vous rappelle le livre classique de Nathalie Zeman Davis. Mais en général, l'intérêt pour ces passeurs n'a pas suscité un intérêt équivalent pour les langues de communication. Il y a un ouvrage sur lequel je voudrais attirer votre attention, où la langue prend la juste place dans la communication connectée dans la Méditerranée du XVe au XIXe siècle. C'est le livre de Jocelyne Daclia sur lingua franca. La lingua franca est si souvent considérée comme agent d'unification, donc comme langue de contact et harmonisation de différences. Elle est redéfinie par Daclia plutôt comme une langue partagée, mais pas commune. Parler la même langue ne veut pas dire faire l'équation entre langue et culture, entre langue et identité, ne signifie pas une langue qui effacerait les lignes de démarcation et de clivage. Parler dans la même langue ne veut pas dire parler la même langue. Le contact n'efface en rien le conflit. Ce qu'a montré si bien Daclia, c'est le côté rudimentaire de la lingua franca, qui ne se vernacularise pas, elle est vraiment très rudimentaire, elle ne se vernacularise pas, elle ne devient pas la langue maternelle de personne. Et c'est bien la preuve qu'il s'agit de satisfaire un besoin de communication dans une zone de conflit. Satisfaire le besoin élémentaire de communication, ça préserve la différence. Il y a le conflit et le contact, mais il n'y a jamais une langue commune, identitaire, nationale, maternelle. Cela interroge aussi l'automatisme de voir dans tous les agents de mobilité des passeurs d'exception qui auraient possédé une extraordinaire capacité d'action ou qui auraient mené une rare forme d'existence. Daclia prône plutôt l'idée de la banalité des passeurs. Et il s'ensuit que, si les passeurs ne sont pas exceptionnels, de même, dans une histoire connectée, tous les contacts ne seront pas des ouvertures, des échanges ou des connexions. Alors, pour le Moyen-Âge, il y a un homme qui répondrait à ces critères de figure d'exception. C'est Marco Polo, vous le connaissez tous. Fils de Niccolo Polo, marchand vénitien, Marco dit avoir passé avec son père et son oncle Maffeo 17 ans à la cour du grand Khan mongol en tant qu'officier de sa cour, voyageant partout dans son empire. Dans son Devisement du monde, écrit en 1298, Polo se pose comme l'intermédiaire de prédilection entre le monde mongol et l'Europe. Tout d'abord, il se donne à voir comme exceptionnel aux yeux du Khan, dont il satisfait la curiosité. Le Khan, je cite, préférait entendre les nouvelles et les coutumes et les usages de ces étranges contrées que entendre les affaires pour lesquelles il avait mandé, il avait envoyé ses émissaires. Marco, qui avait bien compris tout cela, quand il partait en ambassade, en messagerie, il s'efforçait de pouvoir raconter au grand Khan toutes les nouveautés et toutes les choses étranges qu'il y avait. Donc cette exception, même cette exception culturelle, parce que Polo aurait saisi ce que le Khan voulait entendre, ces nouveautés, ces choses étranges, et parce que le Khan était finalement un ethnographe amateur, mériterait, c'est ce que Marco le suggère dans un deuxième temps, de le rendre exceptionnel pour le monde européen. Dans son prologue, il s'adresse aux seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois. Et tous les gens qui voulaient savoir les diverses générations des hommes et les diversités des diverses régions du monde, prenez ce livre et faites-le lire. Tout le long de ce prologue, Polo se positionne comme un passeur d'exception, un informateur. C'est lui l'interprète de la diversité du monde, autant pour le grand Khan que pour les Européens. Et à leur départ de la cour mongole, vers 1292-93, les trois Polos sont chargés d'une ambassade au pape, au roi de France, au roi d'Espagne et aux autres rois de chrétienté. Unique passeur de la diversité des savoirs entre les deux mondes, Polo se donne à voir aussi comme le messager entre les plus grands, les plus puissants. Alors, cela fait-il de lui un passeur exceptionnel ou un passeur banal ? Je laisse cette question en suspens pour le moment. On va y répondre aujourd'hui. D'autre part, de ce clivage entre histoire et littérature, il y a donc le monde médiéval, qui est comme dissocié de la découverte et de l'activité humaine, à part ce cas exceptionnel de Marco Polo. Et plutôt que la connectivité du monde, les études du Moyen-Âge sont restées principalement cantonnées à la textualité, à la tradition manuscrite, et donc au passage des textes d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, plutôt une connectivité de textes. Les personnes et les corps n'y semblent pas jouer un grand rôle. Mais je reprends l'exemple de Marco Polo pour illustrer ça. Le Devisement du monde, le titre aujourd'hui accepté pour le Livre des merveilles du monde, est avec celui de Jean Mandeville, le récit le plus connu et lu au Moyen-Âge. Il existe encore aujourd'hui en 141 manuscrits et fragments produits avant 1530. On s'est beaucoup intéressé à ces traductions manuscrites compliquées. On s'est intéressé à la langue du manuscrit, qu'on dit franco-italien ou franco-vénitien, et aux traductions dans une dizaine de langues avant 1503. La traduction est prise dans une forme de linéarité qui fait qu'entre textes, comme par ailleurs pour l'iconographie des images que nous trouvons dans ces manuscrits, nous suivons la plupart du temps une lignée de tel à tel lieu, de tel à tel manuscrit, de telle à telle version. En bref, globalement pour le Moyen-Âge, on s'attache à la textualité, à la tradition, à la question de fidélité entre l'original et sa traduction. De temps en temps, on trouve des figures de traducteurs, comme par exemple Nicole Orem, qui traduit Aristote à la commande de Charles V. Cet attachement à la traduction et à la transmission des textes trouve son support dans le concept médiéval de la translatio, dérivé du participe passé translatum, du verbe latin transferre, transporter. Je cite l'exemple préféré des spécialistes de la littérature médiévale, dont je fais partie, Cligès, le roman de Chrétien de Troyes. Voilà ce qu'il dit dans son prologue. Voici ce que nous ont appris nos livres. La Grèce fut, en chevalerie en Savoie, renommée la première, puis la vaillance vint à Rome avec la somme de la science qui maintenant est venue en France. Grèce, Rome, France. Dans cet itinéraire, qui est autant une généalogie qu'une histoire, il y a un changement de langue tacite. Mais qui fait ce passage? Qui est derrière ce transfert? Est-ce le livre ou les livres que Chrétien de Troyes met en avant si habilement? Il ne part pas de langue, il ne part pas de son travail de traduction, il part des livres qui transmettent. Ce sont donc les livres, les objets qui matériellement transmettent le savoir, ce ne sont pas les hommes. C'est comme si l'objet se déplaçait par la force même de cette traduction désincarnée, son corps d'homme, mais faisant corps lui-même, le corps du livre. L'objet incarne la traduction, et la traduction provoque la transmission de l'objet et de son savoir. Voilà ce qui est intéressant, il me semble. La translation ne théorise en aucun cas l'agency de l'homme, de l'acteur humain, qui serait derrière ce mouvement. Elle ne souligne ni la différence linguistique, ni le travail du traducteur. Et nous verrons que insérer l'homme et le corps dans la traduction est troublant. C'est en effet ce trouble d'intermédiaire que je poursuis depuis le début. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant ? Pour résumer, le clivage entre corps et texte, entre histoire et littérature, entre la première modernité et le Moyen-Âge, se joue dans la façon d'aborder la traduction et la communication, de traiter les corps. Et ce qui nous empêche en partie d'avancer, de voir le fixeur, d'admettre l'intermédiaire dans notre existence, dans notre quotidien, c'est aussi le statut qu'acquiert la traduction au XXe siècle, parce qu'elle devient un non-lieu de la culture et de la philosophie. Si vous voulez bien m'y suivre, nous passerons par le lieu d'élection de la pensée du XXe siècle, le texte canonique de Walter Benjamin, écrit en 1923, La tâche du traducteur, qui a d'ailleurs été abondamment commenté par de nombreux penseurs. J'évoquerai ici Jacques Derrida et Antoine Berman. Dans son commentaire, Antoine Berman appelle la tâche du traducteur de Benjamin le texte central du XXe siècle sur la traduction. Pourquoi ? Benjamin sacralise la traduction textuelle surtout sur le mode très médiéval de commentaires et de gloses. Ce qui l'intéresse, selon Berman, c'est une métaphysique de la langue et par conséquent une métaphysique de la traduction. Je cite Benjamin, c'est ce que vous avez. « Une traduction est-elle faite pour les lecteurs qui ne comprennent pas l'original ? Mais que communique une œuvre littéraire ? Très peu à qui la comprend ? Ce qu'elle a d'essentiel n'est pas communication, n'est pas message. Une traduction, cependant, qui cherche à transmettre, ne pourrait transmettre que la communication et donc quelque chose d'inessentiel. C'est là, d'ailleurs, l'un des signes auxquels se reconnaît la mauvaise traduction. Mais ce que contient une œuvre littéraire, en dehors de la communication, n'est-il pas généralement tenu pour l'insaisissable, le mystérieux, le poétique ? Pour ce que le traducteur ne peut rendre qu'en faisant lui-même œuvre de poète, d'où, en effet, un second signe caractéristique de la mauvaise traduction qu'il est par conséquent permis de définir comme une transmission inexacte d'un contenu inessentiel. Donc la traduction se pose contre la communication, qui, elle, est définie comme quelque chose d'inessentiel. Benjamin désinvestit la traduction de sens, du message, et de fidélité au sens. Le sens est inessentiel. Pour comble, parce que c'est, je crois, un véritable choc de le lire tellement on est habitué à l'esthétique de la réception, il refuse la notion de la réception, pour la traduction comme pour l'original. Je cite, il termine ce paragraphe en disant « Rien n'y fait tant que la traduction prétend servir le lecteur. Si elle était destinée au lecteur, il faudrait que l'original aussi le fût. » Autrement dit, Benjamin rejette le concept usuel de traduction comme opération de transmission, le concept de fidèle transfert du sens d'une langue à l'autre, celui qui domine l'Occident depuis Cicéron et Saint Jérôme. Ce n'est pas le mot à mot, c'est le sens pour sens. Qu'il rejette. Benjamin, au contraire, insiste sur la littéralité, notamment la littéralité de la syntaxe dans la traduction, et non pas fidélité au sens, restitution du sens, c'est la fidélité au mot. Il dit que la fidélité de la traduction est assurée par la littéralité. Ainsi, il renverse complètement la notion de la fidélité dans la traduction. Pourquoi ? Parce que pour Benjamin, la traduction est une relation de langue à langue, elle n'a pas un rapport à l'extralinguistique, au référent, mais au pur langage, die reine Sprache. La tâche du traducteur, c'est de travailler le mode d'intention ou le mode de visée qui est la forme, et non pas l'intention qui est le sens. Comme Jacques Derrida l'a très bien expliqué dans son commentaire de Benjamin, ce que je dis, le sens, est constamment subverti par comment je dis, la forme. La traduction montre cette étrangeté de la langue qui se révèle, en fin de compte, inhumaine. inhumaine, car elle ne se réfère pas à l'homme, mais simplement l'accueille, disait Jacques Derrida. Ainsi, dans une métaphysique de la langue, il n'y a pas la place pour l'homme. Très précisément, il n'y a pas la place pour le traducteur. D'ailleurs, chez Benjamin, le traducteur n'apparaît que dans le titre, la tâche du traducteur. Il n'est défini que par sa tâche. Et en ce sens-là, la traduction assure la survie de l'original, dit Überleben, dont parle Benjamin, mais elle tue le traducteur, elle tue l'intermédiaire. Alors, comment faire revivre, dans ces conditions-là, l'intermédiaire ? Interroger le rejet de la communication chez Benjamin, comme je le fais, cela veut-il dire revenir au sens, revenir à la communication dont le but de la restitution du sens, revenir à la réception esthétique ? Vous en doutez ? Non, la réponse est non. Nullement. Et pour commencer, je voudrais souligner que si communication est le terme forgé par Nicole Orem, ce traducteur qu'on a croisé il y a quelques instants, alors si intéressé ne peut que nous rapprocher du Moyen Âge. Nous avons vu que le rudimentaire de la lingua franca est bien la preuve que ce qui importe, c'est la communication. Nous avons également vu que les fixeurs agissent dans une situation de conflit, voire de vie et de mort. On rentre immédiatement dans le domaine de communication pour une fin spécifique, souvent de survie ou au moins de l'essentiel, un sauf-conduit, de l'eau dans le désert, etc. Les fixeurs n'agissent pas dans la fidélité au sens, mais dans la survie. Ici, la matérialité, la littéralité de la langue, se confronte à la spiritualité de la pensée. Ici, la communication ne se produit pas parce qu'on la souhaite à des fins d'échange intellectuel, mais pour obtenir quelque chose grâce à une communication plus ou moins fidèle. Les échanges ne sont pas spirituels, intellectuels ou philosophiques, ils sont pratiques. Autrement dit, le contact et l'échange dit culturel se basent sur ces conditions matérielles. Et le contact et l'échange dit culturel sont l'effet et non pas la cause de cette communication. Alors, concevoir le fixeur uniquement comme interprète le réduit au sens, ne donne pas la place à l'expérience. Là, je reviens encore une fois à Marco Polo. Marco Polo dicte son histoire à un écrivain de romans, Rustichello de Pise, en 1298. Ça se passe dans une prison à Gênes. Alors que la voix de Marco est écrite à la troisième personne, Rustichello signe son texte. Je cite... Polo, étant en prison à Gênes, fit traduire ou transposer, retraire, toutes ces choses à Messire Rustichello de Pise, avec lui en prison, l'année 1298, après la naissance de Jésus-Christ. Retraire, c'est le mot en ancien français, ou en moyen français, qu'on traduit par traduire. Voilà donc un scribe. De surcroît, qu'on connaît être écrivain de romans, qui transcrit, retraire l'histoire de toutes les grandes merveilles que Polo a vues et entendues au cours des 17 ans qu'il a vécu à la cour mongole. Mais c'est oublier quelque chose. Comment Polo peut-il prétendre à transmettre tout ce qu'il a vu et entendu, je le cite, toutes les grandissimes merveilles et les grandes diversités de la Grande Arménie, de Perse, de Tartare, de Mongolie, d'Inde et de maintes autres provinces. Comment peut-il prétendre sans à aucun moment parler de ses fixeurs à lui, de ses guides, de ses interprètes ? Comment peut-il prétendre diviser, c'est-à-dire décrire, hein, puisque diviser, ça veut dire et décrire, cataloguer, c'est le devisement du monde. Comment peut-il faire ça sans passer par la diversité des langues, sans la différence linguistique et celle culturelle qui va avec. La seule remarque, et qui est à répétition dans le texte, c'est « ils ont langage pour else hein, », ils ont les langues propres à eux. On comprend qu'il s'agit d'une langue que Polo ne connaît pas, qui ne fait pas partie des langues véhiculaires, mais il ne l'identifie pas ni ne précise pas la façon dont il a pu communiquer avec eux. Et finalement, l'explication est simple. Marco Polo est son propre fixeur. À un seul moment, dans le prologue, il reconnaît parler les koinés, les langues véhiculaires, qu'il dit avoir appris au nombre de 4, sans toutefois les préciser. Il arriva, je cite, « Il arriva que Marco, le fils de Messire Niccolo, apprit si bien la coutume des Mongols et leur langage et leur écriture que c'était une merveille. Car je vous dis toute la vérité, peu de temps passa depuis son arrivée à la cour du grand seigneur avant qu'il ne sût quatre langages et quatre parlers et quatre écritures. » Alors, il ne dit jamais de quoi il s'agit. Donc, on pense qu'il s'agit du tartare, du turc, de l'ouïghour, du sino-perse, et la quatrième, on ne sait pas, mais parfois on dit que c'est ce franco-italien, mais bon. Après cet aveu unique et partial, puisque les langues ne sont jamais identifiées, Polon ne fait plus aucune référence à la communication tout le long de son récit. Il s'efface et donne l'illusion d'un passage direct, sans médiation, transparent, entre l'Orient et l'Occident. Le fait qu'on ne l'a jamais remarqué, que Polo et son propre fixeur est à la hauteur de son accomplissement d'un passage communicatif sans trouble. Il nous offre à voir un monde divisé, catalogué, qui serait immédiat, car il se passerait de ses médiateurs, autant de Polo comme médiateur que de la langue ou des langues médiatrices que Polo aurait pu employer. En revanche, on a voulu localiser l'interprète dans le scribe Rustichello. Mais c'est à la fois Rustichello qui fait le portrait de Marco Polo comme une figure exceptionnelle, et c'est la figure de Rustichello qui occulte le rôle de fixeur qu'est Marco. Le scribe, l'interprète, nous fait oublier le fixeur. Et c'est dans ce trouble-là, entre la volonté de cacher le médiateur, Polo, derrière l'interprète qui fait passer le sens, hein, le retraire de Rustichello, dans ce trouble-là entre les deux, que je travaille finalement ces fixeurs multifonctionnels. Voir le fixeur comme multifonctionnel, comme le relationnel, comme la lettre et la survie, précisément comme cette littéralité que voulait Benjamin, rugueuse, mal accordée, c'est à la fois ne pas rejeter la communication, mais lui attribuer une importance autre que la transmission de sens, de message. C'est accorder une forme de littéralité, sinon une performativité dans son mode d'intention, dans une forme d'existence. Le monde n'est pas fait de texte uniquement, ou plus précisément, s'il est fait de textes et de mots, il y a des mots qui sont des actes, il y a une écriture qui devient l'objet et qui fait agir, comme ce sera le cas de Christophe Colomb. En partant en 1492, Colomb cherchait à rejoindre le Grand Khan par la route de l'Ouest. Et la Bibliotheca Colombina de Séville conserve une traduction en latin de Polo, annotée par Colomb, et qu'il aurait emporté avec lui, comme l'a démontré d'ailleurs Jérôme Bachet dans son livre « La civilisation féodale ». Alors, pourquoi conçoit-on la traduction comme une transmission des savoirs, comme une transmission du sens, des objets de connaissance, plutôt qu'une impulsion à l'action ? Autrement dit, quel pourrait être, s'il y en a un, le côté performatif de la traduction, celui qui fait agir ? Il me semble donc que voir le fixeur comme un dispositif reconfigure le rapport entre la tradition, la traduction et la communication, pour le Moyen-Âge comme pour le contemporain. Il s'agit ainsi de travailler un dispositif, le fixeur comme un échangeur, un médiateur dans un réseau de relations, dans un réseau de translatio. Et il faut comprendre cette circonstancialité vécue qui est aussi une relationnalité. Alors, je dirais Marco Polo, ni exceptionnel, ni banal, mais un dispositif. Je reprends ici la pensée de Bruno Latour, qui théorise indirectement cette réflexion médiévale de la relationnalité remplie de médiateurs. Il dit « ce sont les agencements intermédiaires, nommés ici réseaux ». Si Latour peut mettre à égalité la notion de traduction et de réseau, c'est que pour lui, la traduction est une mise en relation. La traduction est par ce fait de relationnalité le contraire d'une recherche de sens, c'est-à-dire d'essence. Donc de l'essence, on passe à l'existence, à la mise en présence, et c'est admettre la médiation, l'intervention, celle même que nous a fait voir Jean de Valenciennes en figurant Brangien au devant de sa sculpture. Et c'est aussi admettre que la non-médiation, l'invisibilité du traducteur et la non-médiation de l'interprétariat, cette relation directe et donc le sens, sont ce que ce sont des fictions politiques ou en tout cas les fictions de la modernité. La fiction politique que se raconte la modernité et que nous sommes, comme dit Latour, absolument différents des autres et que nous avons rompu pour toujours avec notre propre passé. Mais en réalité, et je reprends ici le titre du livre de Latour, nous n'avons jamais été modernes. Nous n'avons jamais quitté la transcendance, dit-il, c'est-à-dire le maintien dans la présence par la médiation de l'envoi. Le maintien dans la présence par la médiation. Si on rend le fixeur visible, on passe de simple intermédiaire plus ou moins fidèle au médiateur, c'est-à-dire, dit Latour, des acteurs dotés de la capacité de traduire ce qu'ils transportent, de le redéfinir, de le redéployer et de le trahir. Pourquoi ? Pourquoi trahir ? Pourquoi faire tout ça ? Parce que nous ne sommes jamais seuls à agir. Un acteur n'agit pas, on le fait agir. Parce que l'action est toujours dépassée ou débordée, reprise par d'autres, distribuée par un grand nombre de formes d'existence sans visage. Latour rend l'existence non seulement à l'humain, mais à tous les quasi-objets, quasi-sujets, qui sont autant d'acteurs et d'actants. On pourra comprendre ainsi l'action des livres, qui semble faire la traduction chez Chrétien de Troyes. Ce sont aussi des intermédiaires. Mais moi, je m'intéresse quand même à l'homme, au corps. Et je crois que si Bruno Latour était médiéviste, il écrirait contre cette tentation de ne voir dans le scribe ou dans le fixeur un simple interprète. Alors que se passe-t-il quand l'interprète devient fixeur ? Cet effacement, cette insistance sur l'interprète, je pense qu'il y a une partie de l'imaginaire médiéval qui s'y prête. On l'a déjà vu avec Chrétien III et Cligès, et on le verra ici, parce que ce que je vous montre ici, c'est une représentation, une miniature de Saint Jérôme, faite par les frères Lambourg, qui donc le représente en traduisant. Il est à l'intérieur de son studium, de son scriptorium, dans son étude, il écrit. Là, c'est un autre exemple. On retrouve Nicolas Rem, le traducteur de l'éthique et de la politique d'Aristote, pour Charles V, et qui illustre le travail du traducteur qui travaille sur l'ordre d'un commanditaire, ici le roi. Et vous voyez le processus, en fait, depuis... ici, l'ordre du roi jusqu'à... donc, comme ça... jusqu'à la fin, la présentation du produit, de l'objet, au roi. Donc, le traducteur n'est pas un auteur, son autorité, son auctorialité se loge dans l'ordre du prince. Nous passons là à un manuscrit remarquable, dont il sera question dans la quatrième conférence de ce séminaire, commandé par Louis de Bruges, ou Louis de Gruthuse, conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et un des plus grands collectionneurs de manuscrits enluminés dans la deuxième moitié du XVe siècle. Ici, c'est le roman de Gillian de Trazegny, qui a été peint pour Louis en 1464 par Lieven van Lathem, qui était le peintre ducal. Alors, au XVe siècle, aux Pays-Bas bourguignons, on arrive à représenter la complexité du réseau et des formes d'existence. Pourquoi exactement, on verra dans la dernière leçon, mais pour le moment, j'aimerais le poser. Le prologue du roman décrit le traducteur traversant le monde à la recherche des histoires dignes d'être transmises. Je cite « Depuis ma jeunesse, j'avais et j'ai le désir de connaître les hauts et nobles faits advenus par les vaillants et vertueux hommes des temps passés. Ainsi, le bon abbé qu'on voit ici, là, d'ailleurs, je vais vous montrer comme ça. Voyons ainsi le bon abbé, voyant le grand désir que j'avais d'en savoir la vérité, me fit apporter un petit livre en parchemin, écrit dans une ancienne écriture et dans une langue italienne ancienne. Le traducteur est un agent indépendant, sans mécène, guidé par son désir comme seul moteur et baromètre. Sa capacité d'agir s'ancre dans son désir plutôt que dans l'ordre d'un prince. Et Lieven van Lathem fait sortir le traducteur dans le monde. C'est-à-dire, les murs tombent, et même, on voit le passage, là, c'est ouvert. Donc, le traducteur, il le fait sortir dans le monde, tout s'ouvre sur l'extérieur, le traducteur s'accorde à lui-même le pouvoir d'agir par son propre désir, sans commanditaire. Du traducteur passif, Van Lathem le transforme en acteur mobile, en fixeur. De surcroît, sans commanditaire à qui présenter le produit fini, Le fixeur rentre dans un marché où il va marchander le livre, il va l'offrir à un client. La bourse qu'on voit à sa ceinture est peut-être le signe de son statut bourgeois. Et si l'homme est mobile, dans le monde, le livre l'est aussi. On le voit traverser la miniature. Donc de là, après on le voit ici, et là, il est en train de le traduire, c'est la transformation du livre, mais le livre se promène. Le marché du livre en pleine expansion en Bourgogne du XVe siècle est la seule autorisation pour que le traducteur se transforme en fixeur. Donc là, je vais parler de ça, évidemment, du rapport du marché, la loi du marché, et cette transformation du fixeur et comment il en dépend, et de ces rapports de pouvoir qui s'y jouent dans les conférences qui suivront. La demande pour les nouveaux récits et traductions représente autant d'occasions pour en créer et transformer les récits en objets. Van Lathem élimine le commanditaire et le remplace par le marché. Il transforme le traducteur en fixeur et fait voir le livre comme un acteur d'échange. Le désir, présenté comme l'activité de l'homme, est en effet une action exercée par l'objet, par ce livre, sur l'homme, qui s'en trouve être l'objet de sa propre curiosité. Mais en même temps, on voit ici la prise du pouvoir du fixeur qui offre son activité au désir du marché où n'importe qui peut être l'acheteur. Soudain, les agencements intermédiaires deviennent visibles par la mise en présence du fixeur dans l'image. Cette curiosité, ce désir presque démocratique, on le voit aussi avec Marco Polo. Je vous rappelle que Polo dit, n'est-ce pas, il s'adresse aux seigneurs, empereurs et rois, mais aussi aux bourgeois et à tous les gens qui voudraient savoir. Et en effet, son récit conquérira, soumettra, assujettira, si je puis dire, la cour française. En 1307, Thibaut de Chepoix, l'émissaire de Charles de Valois, qui était fils du roi et frère du roi et père du roi, donc Thibaut de Chepoix apporte le manuscrit de Venise à la cour française. Le désir de ce récit produira 18 manuscrits et fragments français. Ce groupe est le seul à être enluminé. 8 sur 18 manuscrits le sont, dont les deux les plus connus sont celui d'Oxford, Bodley, manuscrit 264, et celui-là qui était reproduit en fac-similé magnifique de Paris, le BNF, c'est le manuscrit 2810. Que vous voyez. Pour rejoindre le propos de Bénédicte Savoie, chaire internationale de l'histoire culturelle du patrimoine ici au Collège de France, ce sont certes les objets du désir et des désirs de l'objet, mais le désir de l'objet, et on voit bien que le récit peut être un objet, il est transformé en objet, mais le désir de l'objet, ce désir transforme le sujet, l'acquéreur, en objet, le récit l'assujettit. Si je poussais le propos de Bruno Latour, c'est le désir du récit de trouver sa place dans le monde auquel on répond en tant qu'objet et pour lequel on se met dans la chaîne des intermédiaires. Alors j'espère que vous aussi, vous vous laisserez être agi par ce désir, que vous reviendrez suivre les récits de nos fixeurs qui continueront à interroger notre rapport au monde. La semaine prochaine, je vous proposerai de partir en voyage outre-mer. D'abord, on va partir en croisade, et puis on va partir avec les missionnaires et les pèlerins, mais aussi on va retrouver nos fixeurs contemporains. Nous entrerons dans le vif de la vie et de la mort, et dans cette inquiétante du fixeur, comment faire confiance à l'intermédiaire? L'intermédiaire peut-il jamais être fidèle? Et je suis tout à fait consciente que peut-être on préfère l'illusion de l'immédiat, alors je dis « Welcome Google ». Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.